VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 20 septembre 2023, en direct de Washington, Rosine Munezero, pour commencer les titres. Nous irons à New York où se déroule l'Assemblée générale des Nations unies. Le président rwandais Paul Kagame s'est exprimé à la tribune des Nations unies. Au Gabon, le fils du président déchu et certains des proches sont écroués à la prison de Libreville. Ici aux États-Unis, le ministre de la Justice, Merrick Garland, devant le Congrès, a nié toute instrumentalisation de la justice. Dans la partie magazine, nous reviendrons sur le blocus de la ville de Tombouctou. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Aujourd'hui, la 78e Assemblée de l'ONU se poursuit à l'ONU à New York. Aujourd'hui, les présidents se sont succédés à la tribune de l'ONU, dont le président rwandais Paul Kagame et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Nous sommes justement en direct de New York avec notre collègue Alexandrine Ollognon qui nous fait le point.
Bonjour Rosine, bonjour à tous. Pour l'essentiel de cette journée, il faut mentionner déjà l'appel d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui a averti que l'addiction de l'humanité aux énergies fossiles avait ouvert les portes de l'enfer. Il a fait cette déclaration en lançant aujourd'hui un sommet sur la lutte contre le réchauffement climatique. Un sommet, précisons-le, sans la Chine ni les États-Unis. Ce sommet se poursuit parallèlement au débat général qui entre dans leur deuxième jour aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit tantôt, certains dirigeants mondiaux étaient encore à la tribune des Nations Unies ce matin. Le président de Chypre, qui a réclamé devant l'Assemblée générale des Nations Unies un règlement pacifique et une réunification pour cette île divisée et sous tension depuis un demi-siècle. Il a mis en garde également son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, qui avait réclamé hier à la tribune, à cette même tribune de l'ONU, une reconnaissance de la partie turque de Chypre. Vous l'annonciez, outre le président à Chypre, le président du Rwanda, Paul Kagame, était le tout premier dirigeant africain à se prononcer aujourd'hui à cette tribune des Nations Unies pour cette deuxième journée du débat général. Il a déclaré que la crise de la dette qui pèse sur les pays en développement, notamment les coûts d'emprunt plus élevés, entraîne selon lui une aggravation des disparités économiques, ce qui ralentit selon lui les progrès collectifs vers la réalisation des objectifs de développement durable. D'autres dirigeants africains sont attendus aujourd'hui à cette tribune des Nations Unies. On peut noter le Ghana, la Libye, la Mauritanie ou encore le Libéria. Et je serai avec vous pour le point.
Merci Alexandrine. Nous avons justement un extrait du discours du président rwandais Paul Kagame, traduit par une interprète des Nations Unies à New York.
Tous les ans, les migrants, les réfugiés se lancent dans des voyages périlleux en quête d'un avenir meilleur. Mon pays reste déterminé à travailler avec ses partenaires, y compris le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, afin de contribuer à une solution durable. Nous avons adopté cette posture sur la base de notre expérience, car nous savons trop bien à quel point il est douloureux de tout perdre et de ne même plus avoir de foyer. Cet engagement s'inscrit dans le cadre de notre promesse à ne faire aucun laissé pour compte. Il nous faut encore aujourd'hui une enceinte plus efficace pour gérer les crises mondiales. C'était l'objectif de la création de l'Organisation des Nations Unies.
Le président du Rwanda, Paul Kagame, a justement annoncé pour la première fois qu'il prévoyait d'être candidat pour un quatrième mandat à l'occasion des élections prévues l'an prochain. Je suis heureux de la confiance que les Rwandais me témoignent. Je les servirai toujours tant que je le pourrai. Oui, je suis bel et bien candidat, a déclaré M. Kagame, 65 ans, au magazine francophone Jeune Afrique. Le gouvernement rwandais a décidé en mars de synchroniser les dates des élections législatives et présidentielles qui doivent avoir lieu en août 2024. En République démocratique du Congo, la saison des pluies rend la vie des déplacés dans l'est du pays encore plus insupportable, alerte mercredi le Programme alimentaire mondial, PAM. qui lance un appel d'urgence d'environ 630 millions de dollars pour leur venir en aide. L'OPAM estime à 3,6 millions le nombre de personnes ayant besoin de son aide en Ituri, dans le nord Kivu et le sud Kivu, les trois provinces congolaises les plus affectées depuis plusieurs décennies par des violences armées. Les familles s'abritent sous des couches de bâches soutenues par de minces branches de bois, détaille le texte qui décrit des conditions invivables. Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad SCMA, une alliance de groupes armés du nord du pays, a dit avoir perdu 8 hommes dans une récente opération contre l'armée malienne, mais aussi avoir tué des dizaines de soldats, en avoir fait prisonniers plusieurs autres et avoir abattu 2 avions. La CMA a livré une version divergente de celle de l'armée sur les événements de dimanche à Léré, dans la région de Tombouctou, où elle a attaqué 2 camps militaires. L'armée avait indiqué que 5 soldats avaient été tués et que 11 autres avaient été portés disparus. Elle avait admis avoir perdu un avion, mais affirme avoir neutralisé plus d'une trentaine d'assaillants. Au Gabon, plusieurs figures du régime déchu sont écrouées depuis hier soir à la prison centrale de Libreville. Nureddine Bongo Valentin, fils aîné d'Ali Bongo, est poursuivi, entre autres, pour détournement massif des deniers publics. Les prévenus ont été arrêtés et mis sous mandat de dépôt à l'issue d'une information judiciaire. Le point avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang-Zé.
Sur 12 personnes déférées devant le parquet de Libreville, 2 ont été mises hors de course, selon le procureur de la République. 10 font l'objet d'une information judiciaire, dont Nureddine Bongo Valentin, fils du président Deschi. 4 autres personnalités du cercle très fermé de l'ancien régime sont placées en détention provisoire. Ils sont poursuivis pour haute trahison, détournement des deniers publics, malversation financière en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active et trafic de stupéfiants. Aussi, Sylvie Zeko Dieko, secrétaire général de l'ex-parti au pouvoir, est assigné à résidence surveillée. Le parquet de Libreville annonce la poursuite des enquêtes et des auditions d'autres personnes visées par l'opération de moralisation de la vie publique instruite par les militaires au pouvoir. Libreville, Ismaël Obiang-Zé pour VOA Afrique.
2 journalistes français ont été expulsés mercredi du Maroc où ils travaillaient sur un article sur les autorités et le système sécuritaire, a indiqué l'un des reporters, Quentin Muller, rédacteur en chef adjoint du service international de la revue française Marianne et Thérèse Di Campo, photographe indépendante, ont été interpellés dans la nuit de mardi à mercredi à leur hôtel à Casablanca, sans explication, a déclaré M. Muller. Les autorités marocaines n'ont pas commenté dans l'immédiat.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre américain de la Justice, Merrick Garland, a assuré ce mercredi que son équipe ne se laisserait pas intimider et accomplirait sa mission indépendamment de toute pression face aux accusations de partialité des républicains majoritaires à la Chambre des représentants. Le point avec Eric Manilakidze.
Devant la commission des affaires judiciaires, les républicains ont accusé le ministre de la Justice, Merrick Garland, de partialité, insistant sur la protection de Hunter Biden et la poursuite de Donald Trump. Il y a une enquête protégeant le président Biden et une autre attaquant le président Trump. Le ministère de la Justice maîtrise les deux côtés de l'équation, a lancé le président de la commission Jim Jordan. Monsieur Garland a défendu l'objectivité du ministère de la Justice, soulignant sa mission de poursuivre les faits et la loi. Les républicains estime que l'administration Biden utilise la justice contre son prédécesseur Donald Trump en vue de l'élection de 2024. Tout en reconnaissant la légitimité du contrôle, voire de la critique de l'action du ministère de la Justice, M. Garland a prévenu que s'en prendre spécifiquement à des fonctionnaires de carrière qui ne font que leur travail est dangereux, en particulier dans une période de menaces croissantes les visant, eux, et leur famille. Une enquête de mise en accusation visant Biden a été initiée, principalement centré sur les affaires de son fils Hunter Biden en Ukraine et en Chine, ainsi que sur les pressions exercées par Joe Biden en Ukraine lorsqu'il était vice-président.
Des milliers de migrants, en majorité des ressortissants subsahariens, campent au nord de Sfax en Tunisie, dans l'attente d'une traversée vers l'Italie après avoir été chassés par les forces de sécurité. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco avec Nani Talani.
La République démocratique du Congo éprouve toujours des difficultés à obtenir des investissements pour son projet de centrale électrique Dinga, a déclaré le président Félix Tshisekedi à New York, aux États-Unis, ajoutant que la Banque mondiale et la Chine sont intéressées. Ce projet de plusieurs milliards de dollars qui va exploiter l'énergie du fleuve Congo a été retardé à plusieurs reprises par des tracasseries administratives et des désaccords entre la RDC et ses partenaires. L'économie du Ghana a progressé de 3,2% au deuxième trimestre 2023, selon l'Office des statistiques. La croissance a été tirée par l'exploitation minière, l'agriculture, la santé, les transports et les technologies de l'information. Mais l'industrie s'est contractée de 1,9% et la construction de 11,7%, soit la plus forte baisse en 5 ans. Pour terminer, l'Égypte a approuvé le projet Gasco visant à augmenter la capacité de son complexe gazier du désert occidental avec une quatrième ligne de production de 600 millions de pieds cubes par jour. Ce projet, d'une valeur de 380 millions de dollars, vise à augmenter la production de dérivés du gaz naturel.
Et maintenant, l'actualité sportive avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ousine, bonsoir à tous.
La Basketball Africa League s'invite à l'Assemblée générale de l'ONU.
Oui, avec la présence de son président Amadou Gallo Fall, patron de la Basketball Africa League, qui dit être venu à New York pour faire connaître davantage le fruit de la NBA sur le continent.
Un événement comme celui-là nous présente l'opportunité d'aller vers les supporters, d'engager de nouveaux fans dans cette aventure. Avoir Claire Akamanzi ce matin, qui est le CEO de Rwanda Development Board, notre partenaire principal, qui a parlé de ce que le partenariat signifie pour le Rwanda. Et nous aussi, sur le même panel, le Rwanda Development Board est notre premier partenaire. Parler de la destination de Kigali, où on joue le final, où nous avons renouvelé un partenariat pour les prochaines 5 années, ça veut dire que c'est un partenariat qui marche. Il y a déjà beaucoup de monde ici autour du sommet des Nations Unies qui viennent de différents pays du monde et de la diaspora africaine qui ont exprimé le désir de venir assister au final à Kigali ou bien aussi dans les autres pays où on va jouer.
Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League. Dans sa délégation, on compte l'un des investisseurs de la BAL, Joachim Noah, ancien basketteur NBA. Il revient sur le pourquoi de son implication et l'avancée du basket sur le continent.
J'ai investi parce que c'est mon héritage. J'ai investi parce que c'est mes racines. Et pouvoir travailler avec une plateforme surtout une plateforme de basket que je connais très bien, ça me fait vraiment plaisir. Je sais que je travaille avec aussi Amadou Gallo Fall, qui est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Quand on parle de basket en Afrique, on parle du futur, mais c'est pas vraiment le futur, c'est vraiment le présent. Le MVP de la NBA est camerounais, Joel Embiid est camerounais, et ça il faut qu'on comprenne c'est le meilleur joueur dans la planète et il a commencé à jouer au basket à 17 ans. Alors imaginez si on y a une vraie infrastructure pour lui ou pour toutes les jeunesses qui vont être inspirées par un joueur comme ça. C'est ça qui nous donne envie de vraiment continuer à vraiment pousser pour aider les plus jeunes, les prochaines générations.
Joachim Noah, ancien basketteur NBA, des propos recueillis sur place à New York par Sims Loumami et Mayra Fernandez du service portugais de la VOA.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Monezero de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, les députés ont adopté le projet de loi autorisant l'envoi d'un contingent militaire burkinabé au Niger. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité des 71 voix. Le pays prévient que si le Niger est attaqué, il réagira en conséquence. Les populations, pour la majorité, saluent cette décision. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le Burkina Faso est prêt à envoyer un contingent militaire au Niger, non seulement pour lutter contre le terrorisme, mais aussi riposter en cas d'agression par la CDAO. Le colonel Kassoum Koulibaly est le ministre de la Défense.
Nous avons laissé passer des trucs pareils pour la Libye en 2012-2013 pour le Mali. Ne laissons plus des trucs pareils arriver dans un autre pays proche ou voisin de nous. Nous voulons être sûrs que si toutefois certains gouvernants arrivaient à enfreindre à l'article 2 de la Charte des Nations Unies et même au traité qui concerne la CEDEAO pour s'attaquer à un pays voisin pour des raisons quelconques où nous savons clairement que ce n'est pas bien défini, nous réagirons en conséquence.
À Ouagadougou, l'envoi de ce contingent militaire au Niger est vu plus ou moins d'un bon œil. Brice Ndo, comptable.
Moi je pense que c'est une bonne initiative. Même quand on a des problèmes, on les résout de façon pacifique. Et ça ne sert à rien d'aller agresser le Niger parce qu'il y a eu un coup d'État. Déjà, le Niger est un pays qui est mal au point, économiquement et même politiquement. On a le terrorisme qui a envoyé le Niger, le Burkina, le Mali.
Daouda Nana est un agent du privé.
Concernant les intérêts nationaux, bon, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, mais maintenant, bon, sur le plan de la coopération, je pense que c'est une loi que je pense à refaire. Quand je pense que je vois que c'est une politique de confrontation, je pense que ce n'est pas vraiment une bonne idée pour Karma, la sous-région.
Crépé Tanyabou exerce dans les affaires.
Le Niger, depuis quelques années, connaît des moments difficiles avec la situation sécuritaire. Mais cette même CDO n'a jamais envoyé des militaires pour venir aider à combattre contre le terrorisme. Mais c'est paradoxal que après un coup d'État, que la CEDEAO du coup trouve une force qui puisse venir intervenir pour déloger les nouvelles autorités.
La durée de la mission du contingent militaire burkinabé sera de 3 mois renouvelable. Pour le moment, on ne sait pas combien de soldats seront mobilisés ni la date de leur déploiement. C'était fin août que le gouvernement a autorisé en Conseil des ministres l'envoi d'un contingent au Niger. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena. C'est 93.1 FM au Tchad.
Dans le centre du Mali, l'élevage est l'une des principales activités en zone rurale. Ces dernières années, l'insécurité et le vol de bétail a porté un coup dur au secteur. Plus de 200 000 têtes de bovins et ovins ont été volées suite aux attaques des groupes armés. L'État et ses partenaires appuient les éleveurs à reconstituer le cheptel. De Koro, la correspondance de Tidiani Ouedraogo.
Les secteurs de l'agriculture et de l'élevage sont les piliers de l'économie dans le centre du Mali. Les cheptels en provenance de la région ravitaillent les marchés de Bamako et des pays voisins comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Bouram Guindo profite bien du secteur depuis des années.
J'achète les bovins ici pour les vendre à Bamako, Abidjan et Dakar, surtout à la veille des fêtes de Tabaski.
Depuis le début de la crise sécuritaire dans le centre du Mali, le secteur de l'élevage a été touché de plein fouet. Comme Drissa Tapili, beaucoup d'éleveurs ont perdu leur bétail suite aux attaques terroristes.
Ils sont venus vers le petit soir attaquer le village. Après leur forfait, ils sont repartis avec plus de 200 têtes de bétail.
Selon lui, l'élevage était un secteur profitable à cause de son apport sur le plan économique.
L'élevage était pour nous, à titre d'exemple, on pouvait vendre les bovins pour acheter des céréales en période de soudure. On les vendait aussi pour financer les cérémonies de mariage au village.
Selon une étude de la Direction régionale de l'agriculture, plus de 200 000 têtes de bovins et ovins ont été volées dans les cercles de Badiangara, Bankas et Koro, affectant du coup l'approvisionnement du lait local sur les marchés. Mariam Diko est l'une des rares femmes à vendre du lait local dans la ville de Koro. Son mari traite le lait chaque soir après le pâturage.
Mon mari traite le lait et je le vends pour subvenir aux besoins de la famille. On trouve nos condiments grâce à la vente du lait. On profitait bien de l'activité avant la crise sécuritaire. Maintenant, le lait est rare et le prix est à 700 francs.
Comme Alassane, beaucoup peinent à acheter des ovins pour les cérémonies de mariage ou baptême à cause de la flambée du prix sur les marchés.
Je suis venu acheter un mouton, mais je n'ai pas pu à cause du prix élevé. Vraiment, l'État doit prendre des mesures contre les revendeurs, sinon à ce rythme, on ne peut plus payer des bétails dans le marché.
Pour reconstituer le cheptel dans le centre du pays, l'État et ses partenaires techniques et financiers accompagnent les éleveurs. Djenemou Dolo est une bénéficiaire.
J'ai bénéficié de 2 sacs d'aliments bétail et des médicaments. C'est pour encourager les acteurs de l'élevage dans les zones de crise.
L'élevage joue un rôle important dans la création des richesses et de la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Beaucoup fondent l'espoir pour la redynamisation de l'élevage dans les centres du Mali. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
En République démocratique du Congo, le journaliste Stanis Boujakera, arrêté par la police le 8 septembre à Kinshasa, a été transféré jeudi en prison, malgré les protestations et de nombreux appels à sa libération. Le point avec Eddy Issango.
Donc, rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo. Nous avons tenu notre sit-in aujourd'hui devant le cabinet donc du ministère, devant les ministères de la Justice et Garde des Sceaux pour exiger l'abandon de poursuites judiciaires et harcèlement contre le journaliste pendant cette période électorale. Et à la suite de cette manifestation, nous avons remis un mémorandum à l'attention de la ministre de la Justice qui est en déplacement. Le mémo a été réceptionné par son conseiller.
Vous avez suivi la réponse que le président a donnée à une question ici, d'ici à New York, disant que l'enquête était en cours, il fallait laisser la justice faire son travail.
Oui, nous avons suivi attentivement sa réponse, mais nous aussi, nous le faisons comprendre nos revendications à nous, qui donc éclairent et nos revendications légitimes, parce que là, nous n'arrivons pas à cerner qu'est-ce qu'on reproche réellement au journaliste Stanis Boujakera, parce que il est ni auteur de l'article. Aussi, Boujakera n'a commis aucune faute légale ni faute professionnelle. Voilà pourquoi nous avons suivi le chef de l'État, mais nous estimons que nous avons nos revendications qui sont légitimes. Nous avons annoncé la semaine prochaine, dès qu'il sera de retour ici à Kinshasa, nous irons le voir pour déposer une lettre ouverte à son intention.
Pour vous, cette arrestation du journaliste Boujakera a une incidence sur la démocratie en RDC ?
Oui, tout à fait. Non seulement ça a une incidence pour notre jeune démocratie, mais aussi la liberté de la presse tant promise par le président de la République. Vous vous rappelez, lors de sa prestation de serment, le président a promis une presse libre. Et voilà, pendant que le journaliste célèbre la nouvelle loi sur la liberté de la presse, il y a encore des actes tant décriés dans le passé. Donc, nous estimons que ça, c'est une entrave, c'est une oppression à la liberté de la presse, à la liberté d'expression. Donc, voilà. Donc, nous estimons que la place de Boujakera n'est pas en prison et cette période électorale devrait être cristallisée par une presse libre et indépendante qui devrait, en fait, travailler et couvrir toutes les activités.
Vous semblez évoquer d'autres journalistes qui ont subi de pareils cas
à Goma. un, qui a été assassiné de façon vraiment horrible. Donc ça fait 4 jours. Il y a un autre qui a été incarcéré depuis la fin passée, je pense, Papi Okito, que nous venons d'apprendre qu'il vient d'être libéré.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la sécurité, le climat et les objectifs de développement durable sont au menu de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Des thèmes qui intéressent au premier plan l'Afrique, le plus grand bloc à l'Assemblée générale de l'ONU. Raison pour laquelle les dirigeants du continent continuent de réclamer une place de membre permanent au Conseil de sécurité, une instance de décision cruciale dans le système des Nations Unies. L'Afrique à l'ONU, c'est ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Au Tchad, les réfugiés soudanais installés dans le nouveau camp de Farkana, dans la province du Ouaddaï, craignent pour leur sécurité. Les femmes rapportent des cas d'agressions sexuelles, obligeant nombre d'entre elles à ne pas sortir du camp durant certaines heures. André Kodmandiga, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Depuis le début du conflit au Soudan le 15 avril entre deux généraux rivaux, le Tchad continue d'enregistrer un afflux de réfugiés soudanais et de Tchadiens rentrés du Darfour. Au 11 septembre, l'OICR affirme avoir enregistré plus de 418 nouveaux réfugiés sur le sol tchadien. Installés dans les provinces du Wadaï, du Wadi Fira et du Sila, ces réfugiés et retournés tchadiens vivent toujours le cauchemar qui les rappelle la situation qu'ils ont vécue au Soudan, comme en témoigne au micro de VOA Afrique, Mohamed Issaka Moussa, président du nouveau camp de Farchana.
Il se passe des choses horribles dans ces camps. Chaque jour, des personnes inconnues cherchent à violer nos femmes. C'est le cas d'une femme qui a failli être victime lorsqu'elle revenait du marché, n'eût été la vigilance des passants avec son bébé au dos. La scène s'est déroulée à côté même de l'ancien camp des réfugiés. Quelquefois, il y a eu aussi des bagarres rangées entre les réfugiés à l'intérieur du camp. Et que nous appelons les agents de sécurité au secours, ils ne viennent pas sous prétexte qu'ils n'ont pas de moyens de déplacement. Finalement, nous sommes traumatisés.
Madame Fatma Adam Mahamad, qui a perdu son mari et son beau-fils dans la guerre au Soudan, confirme les violences et exige des autorités tchadiennes plus de sécurité.
Comparativement à la situation que nous avons vécue au Soudan, nous sommes mieux ici, mais nous avons un sérieux problème de santé et quelques poches d'insécurité. Il n'y a pas de centre de santé ici dans le camp et en cas de maladie et que nous partons pour nous faire soigner en ville. Les gens nous agressent. À partir de 16 heures, heure locale, aucune femme ne peut sortir en dehors du camp, même pour aller chercher des fagots pour la cuisine. Nous demandons au gouvernement tchadien et au HCR de nous construire un centre de santé ici au camp pour nous éviter des problèmes avec les autochtones.
Le représentant de la CENAR, la Commission nationale d'accueil, de réinsertion des réfugiés et des rapatriés, et par ailleurs gestionnaire du nouveau camp de Farchana, Tuki Alafouza, dit ne pas être au courant de l'agression sexuelle dont sont victimes les réfugiés.
Avant qu'ils rentrent dans la frontière, il y avait des femmes qui étaient violées. Celles-là aussi, je crois qu'elles sont prises en compte par les services de IAS ou soit Oxfam pour le traitement, tout ça. Mais ici, nous avons ce qu'on appelle le détachement protection humanitaire. Beaucoup y sont opérationnels dans le lieu où, de nouveau, les réfugiés viennent. Mais entre et peut-être il y a des chamois. Ça, c'est des petits trucs que les leaders eux-mêmes ils vont en train de traiter.
Toutefois, Tuki Alafouza, représentant de la CENAR, reconnaît que les agents de sécurité sont en sous-effectif et plaide pour que les dispositifs sécuritaires soient renforcés.
Nous avons besoin du complément des agents de sécurité parce qu'ils sont en moins effectifs. C'est vrai, il y a des forces autres qu'ils ont amenées, mais les missions opérationnelles sont devenues trop pour les escorts. Donc, on ne trouve pas parfois des véhicules qui sont sur place pour rapidement donner secours en cas de quelque chose dans le camp.
Si la guerre ayant occasionné les affrontements intercommunautaires se poursuit au Soudan, le gouvernement tchadien estime qu'il pourrait accueillir sur son territoire plus de 600 000 réfugiés soudanais et retourner tchadiens d'ici fin 2023. André Kodma Dingar, de retour de Farchana, province du Wadaï, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rosine Monezero était à la présentation, à la mise en onde. Georges Léonard Sagnot, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.